Farming Simulator 22. Cultivez les bons moments avec Farming Simulator 22. Cultivons ensemble les bons moments dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts dédiée à Farming Simulator 22 et à l'agriculture française. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des grandes nouveautés dans FS22, l'olive. Inséparable d'une tomate mozzarellée, d'une vinaigrette réussie ou d'un bon carpaccio de bœuf, l'huile d'olive accompagne à merveille un bon nombre de recettes. Même si elle n'est pas la plus grosse productrice et exportatrice, la France n'est pas en reste en matière de culture et d'exploitation de l'olive, et son savoir-faire rayonne dans le monde entier. Je laisse donc la parole à Energie5, qui, sous le chant des cigales, va cultiver avec nous les bons moments.
Oh oui, l'apaisant chant des cigales. Bonjour à tous, c'est Marlon, plus connu sous le nom de Energie5 sur YouTube. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode dans lequel nous allons aborder le sujet des olives. Car oui, les olives sont l'une des trois nouvelles cultures disponibles sur Farming Simulator 22, comme le raisin et le sorgho. C'est une culture très technique qui est cultivée notamment dans la région PACA en France. Et d'ailleurs, qui de mieux pour nous en parler que Laurent Bellorget de La Lieutenante. Bonjour Laurent.
Bonjour Energie 5.
Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce que vous faites ?
Donc, je suis producteur d'olives dans la vallée des Baux-de-Provence, sur un domaine de 48 hectares. On cultive donc principalement 5 variétés d'oliviers, donc la Saloninque, la Glandeau, la Verdale des Bouches-du-Rhône, la Grossane, la Picholine et le Caïtier. Ça doit pas faire 5 ça doit faire 6, non ? Pardon, ça fait 6 variétés.
Oui, je crois bien que ça fait 6. Et du coup, depuis combien de temps vous cultivez l'olive ?
Alors moi, j'ai repris le domaine en 2001, depuis le décès de mon père. Mais bon, on est sur un domaine familial. Les premiers oliviers ont été plantés dans les années 60, juste après le gel de 56, qui avait décimé toute la production de Provence. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a mon père qui a replanté aussi des arbres. J'en ai replanté. Et donc en fait, voilà, les arbres ils ont été plantés au fil des générations, donc c'est pour ça qu'on a un peu tous les âges. Et comme on dit souvent, on plante les arbres pour ses enfants, donc voilà, j'exploite les arbres de mon père et de mon grand-père, et mes enfants exploiteront peut-être les arbres que j'ai plantés, parce que voilà, il faut savoir que l'olivier il met beaucoup de temps à produire. Hein, il faut une dizaine d'années pour qu'il arrive en pleine production.
Okay.
Et après, il n'y a pas de limite. On peut avoir des arbres qui sont très âgés et qui continuent à produire.
Et toutes ces années à planter des arbres de génération en génération, ça donne un nombre de combien d'arbres, par exemple ?
Donc, en fait, sur les 50 hectares, on va avoir à peu près 13 000 arbres. Et parce qu'ils sont plantés en 7 par 4, donc 7 mètres sur les rangées et espacés de 4 mètres sur le rang.
Ok, alors sur Farming Simulator 22, nous avons deux nouvelles cartes. Aubéleron, qui est un paysage un petit peu plus français, un petit peu proche de ce qu'on a ici dans le PACA, et également la carte Elm Creek, qui est une carte américaine. Alors évidemment, ici, en PACA, on est plus proche des paysages de Aubéleron. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques particularités des olives, justement, dans cette région ?
En fait, dans la région, on a la chance d'avoir une grande diversité d'olives. On va cultiver... Bon, on dit qu'on cultive une centaine de variétés d'olives, mais bon, il y en a une vingtaine principalement qui sont cultivées. Et donc c'est cette diversité de variétés qui donne une grande diversité des goûts et qui fait qu'on a des huiles très différentes et très différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs.
Alors justement, question peut-être un petit peu basique, mais c'est quoi la différence entre les deux couleurs d'olives ? Est-ce qu'elles apportent quelque chose de différent ?
Il faut savoir que toutes les olives vont passer du vert au noir, ou plus ou moins noir, puisqu'il y en a certaines qui vont rester plutôt violacées.
D'accord.
Mais en fait, ensuite, il y a des variétés qui se mangent plutôt vertes et des variétés qui se mangent plutôt noires. Donc tout à l'heure, j'ai cité, on a la Saloninque, la Glandeau, la Picholine qui se mangent vertes. Et puis en olive noire, on va avoir la Grossane, la Caïtier, qui est la petite olive de Nice, la Tanche, qui est l'olive de Nyons, qui sont des variétés qui se mangent plutôt noires. Mais toutes les variétés passent du vert au noir.
Ah oui, donc finalement, ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que, justement, la différence de couleur entre ces olives vertes et ces olives noires, ça influence directement le type d'huile qu'on obtient ?
Tout à fait, en fait. On va avoir trois grandes catégories de goût d'huile d'olive, selon qu'on les fait avec des olives qui sont vertes, mais en fait, on dit plutôt tournantes, parce qu'on les récolte quand même pour qu'il y ait suffisamment d'huile dedans. On les récolte quand elles commencent à passer du vert au noir. Donc, avec ces olives très précoces, on va faire du fruité vert. Mm-hmm. Donc, avec des arômes très herbacés dans l'huile, des arômes d'herbes fraîches coupées, de feuilles de tomates. Et ensuite, plus on va avancer en maturité, on va se retrouver avec un fruité mûr, donc avec des olives qui sont plus mûres. On va faire une huile qui est beaucoup plus douce et qui est plus ronde.
Ok.
Et puis, entre les deux, avec des olives qui sont tournantes, on va être capable aussi de faire du fruité noir, où là, en fait, c'est le process qui va changer. On va faire fermenter les olives quelques jours dans des palox hermétiques avant d'extraire l'huile. Et là, on va partir sur une palette aromatique complètement différente, où on va être sur du champignon, du sous-bois. Donc, on a ces trois grandes catégories de goût d'huile d'olive. Le fruité vert, le fruité mûr et le fruité noir.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte pour influencer la qualité de l'huile obtenue ? Comme par exemple, on entend souvent parler de pression à froid. Qu'est-ce que c'est ?
Le terme pression, il est un peu ancien. En fait, aujourd'hui, on parle plus d'extraction à froid. Parce que c'est le process d'extraction de l'huile qui a changé. Pression, c'était à l'époque où on avait des scourtins et on allait presser la pâte d'olive pour extraire l'huile. Aujourd'hui, on a des chaînes continues qui permettent d'avoir une meilleure qualité d'huile et où on est sur une extraction uniquement par des moyens mécaniques, hein, il faut le savoir. C'est par la force centrifuge qu'on va séparer l'huile, l'eau et la pâte, en fait.
Ah oui, je vois.
Et donc, on parle d'extraction à froid. Et le à froid, c'est le fait qu'on ne chauffe pas la pâte d'olive pour extraire l'huile. On est vraiment sur une température basse pour extraire uniquement la meilleure huile. Après, ce qui se passe en Espagne, souvent, derrière, ils font une extraction d'huile de grignon, où là, on chauffe la pâte et on va extraire encore quelques pourcentages d'huile. Mais ça va plutôt être destiné aux savonneries, c'est plus destiné à l'alimentation humaine.
Ah oui, donc en fait, une fois que la récolte est passée, il reste encore beaucoup de travail pour obtenir de l'huile. Juste comme ça, pour se rendre compte, il faut quelle quantité d'olive pour faire de l'huile ?
Alors c'est vrai que, en fait, pour faire un litre d'huile, on dit qu'il faut 6-7 kilos d'olive. Donc on va récupérer qu'entre 15 et 20% de l'olive pour faire de l'huile.
D'accord.
Et donc nous, on produit entre 20 et 40 000 litres d'huile, parce que bon, il faut savoir que l'olivier, il est très alternatif. Donc il y a des années où il donne plus et des années où il donne moins.
Et justement, pour pallier un petit peu à cette alternance, est-ce qu'il y a des éléments qui rentrent en compte pour avoir des olives parfaites ?
C'est vrai que pour obtenir une bonne olive de bouche ou une bonne huile d'olive, il faut partir de fruits qui sont parfaits et qui sont sains.
Mm-hmm.
Donc ça va être tout le travail de toute l'année, de faire en sorte d'arriver à la récolte avec des fruits sains. Donc à la fois de bien entretenir les arbres, donc ça passe par la taille, par le soin qu'on apporte au feuillage, et ça passe aussi avec la lutte contre les ravageurs qui vont, et entre autres la mouche de l'olive, qui est le pire pour nous, qui vient pondre en fait une petite larve dans l'olive et qui va altérer cette olive.
D'accord.
Donc ça, c'est la lutte de tout l'été, lutter contre cette mouche de l'olive, faire en sorte qu'il n'y en ait pas pour qu'on ait des fruits sains à la récolte.
Alors, sur Farinisator 22 aussi, ça demande du temps de s'occuper de ces oliviers. Il vous faudra les planter, il faudra s'en occuper en apportant différents engrais, également broyer à leurs pieds et enfin, évidemment, récolter la fameuse olive. On se demande comment ça se passe en vrai.
Donc on va planter, alors on plante notre olivier. En général, on plante des arbres qui font 60 à 80 cm de haut, donc c'est vraiment tout petit. Et donc pendant les 5 premières années, on va faire en sorte qu'il pousse, on va le former, hein, pour que le port de l'arbre soit le plus large possible et qu'il y ait des fruits qui puissent se mettre tout autour.
Ok.
Et puis au bout de 5 ans, il va commencer à nous donner quelques olives. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut une dizaine d'années pour arriver vraiment à une production importante sur l'olivier. Donc pendant tout ce temps-là, voilà, on va faire en sorte de le former correctement et pour qu'il y ait à la fois la lumière qui puisse rentrer et à la fois qu'il soit dense pour porter le maximum d'olives.
Ok, et au niveau de la récolte, comment ça se passe ?
Alors voilà, ces olives, en fait, on va les récolter. Donc on va commencer la récolte fin août, début septembre avec la variété qui est la plus précoce, qui est la Saloninque, pour faire de l'olive de table, qui est l'olive cassée de la vallée des Baux-de-Provence.
D'accord.
Ensuite, on va récolter les picholines aussi une olive verte pour la bouche. Et puis vers le 15 octobre, on va commencer la récolte pour l'huile. Donc là, on va récolter toutes les variétés. Et puis sur la fin de récolte, donc fin novembre, on va récolter les olives noires pour la table. Et entre autres, donc la Grossane qui donne l'olive noire de la vallée des Baux-de-Provence et qui se récolte donc fin novembre, début décembre, quand il y a les premières gelées, quand elles commencent à se friper en fait.
Ah oui, c'est quand même une grosse étape cette récolte. Il y a plusieurs stades et ça a l'air d'être espacé de plusieurs semaines. Est-ce que pour terminer le cycle, vous avez besoin de désherber comme sur FS22?
Donc en fait, voilà, une année, si on prend une année complète, en début d'année, on va commencer la taille. Donc la taille qui va durer du mois de mars au mois de mai, grosso modo. Pendant cette période-là, on va aussi faire très attention au feuillage. Donc, on va faire des traitements au cuivre pour contre l'œil de paon, qui est entre autres un champignon qui se développe sur les feuilles. Et puis, au mois de mai, fin mai, on va avoir la floraison de l'olivier, donc qui est la période cruciale, puisque c'est ces fleurs qui vont derrière donner les olives. Donc, floraison, là, on va faire attention aussi à la fleur. On va apporter à l'arbre ce qui peut lui manquer en engrais ou en amendement, en carence, en oligo-éléments aussi. Et puis, donc, ensuite, on a la noaison qui se fait au mois de juin. Donc ça, c'est justement, c'est ce qui va vraiment donner l'olive. C'est le moment où les fleurs vont être pollinisées. Et à ce moment-là, la petite olive va se former. Et donc, à partir de fin juin, l'olive va mesurer plus de 5 mm. Et c'est là qu'il va falloir faire attention à la mouche qui peut commencer à aller piquer les olives. Donc là, on va essayer de la maintenir tout l'été. Donc soit avec des traitements à l'argile, on recouvre en fait les olives d'argile pour empêcher la mouche d'aller piquer l'olive. Mm-hmm. Et tout ça nous amène donc à la récolte qui commence début septembre, ou en tout cas ici. Après, ça dépend des bassins de production, où elle peut commencer un peu plus tard. Et on va récolter comme ça jusqu'au mois de décembre, voire janvier, quand on est plus près de la mer, ou à Nyons, sur des olives vraiment très noires. Et puis le cycle recommence l'année suivante.
Et on imagine que tout au long de l'année, vous avez besoin de machines et de matériel spécifique justement aux olives. Alors sur Farming Simulator 22, on a énormément de matériel, plus de 400 machines et outils et plus de 100 marques agricoles. Alors on a notamment pour la récolte de l'olive la New Holland Bro 90-90X qui est disponible. Est-ce que vous pouvez nous dire quel matériel vous utilisez ?
On va utiliser comme machine, on va avoir donc, on n'a pas parlé aussi, mais de l'entretien du sol, hein, donc l'entretien entre les arbres pour éviter que la végétation pousse. Parce qu'au moment de la récolte, surtout pour la récolte des olives pour l'huile d'olive, on va mettre des filets au sol, donc il faut qu'on ait un terrain assez propre. Donc pour ça, donc tout au long de l'année, on va broyer en fait, broyer le rang. Donc ça, on a des broyeurs à marteau qui nous servent aussi à broyer le bois de taille, mais aussi l'herbe tout au long de l'année. Ensuite, au niveau du rang, on va avoir soit des satellites avec des couteaux qui nous permettent de couper l'herbe entre le rang, avec des systèmes qui s'escamotent en fait entre les arbres. Ou bien on va désherber le rang, ce qui se pratique aussi. Et puis donc voilà, donc nous on a un tracteur, on a un John Deere qui nous sert à faire tout ça avec le broyeur. Ensuite, il y a tous les traitements à l'argile ou avec les oligo-éléments qu'on est obligé d'apporter. On va le faire, donc on a un pulvérisateur qu'on met derrière le tracteur. Et pareil, on le tire avec le même tracteur. C'est un pulvérisateur tiré qui fait 3000 litres et donc qui nous permet de traiter une surface importante avec une faible quantité d'eau.
Oh, très bien.
Et puis ensuite, au moment de la récolte, donc on a à la fois des peignes électriques, donc qui sont manuelles, qui sont maniées par des hommes. Et puis on a aussi des gros peignes qu'on monte sur des mini pelles et qui nous permettent d'aller plus haut et de faire vraiment le tour de l'arbre. On va aussi avoir donc les filets qu'on met au sol, et donc là on a un enrouleur de filets qu'on monte à l'avant du tracteur, toujours le même John Deere. Mm-hmm. Et derrière, avec un aspirateur à olives qui va nous permettre d'effeuiller et de mettre en palox les olives qui ont été ramassées dans le filet qui est devant le tracteur.
Ah oui, donc ça nécessite quand même pas mal de matériel, mais toujours dans une optique d'agriculture raisonnée. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait la force de la production française ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance, l'olivier, c'est un arbre qui est quand même hyper robuste, et donc on fait pas énormément de traitements dessus. Donc on est vraiment sur une agriculture extrêmement raisonnée, voire même biologique, parce qu'en fait, la part d'agriculture bio dans la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est de 20% des surfaces, donc on est la première région de France à ce niveau-là.
Très bien.
Donc on est sur une agriculture qui est extensive, on n'est pas du tout sur de l'intensif. On a la chance pour nos huiles d'olive et nos olives d'avoir des appellations d'origine protégée et où on est plutôt dans la recherche de la qualité de l'huile et des olives plutôt que la quantité.
Alors merci pour ces précisions. Là j'ai une autre question qui me vient comme ça. Alors on a parlé de l'huile, on a parlé de l'olive de table. Est-ce qu'il y a d'autres produits possibles avec ces olives ?
À partir des olives, on va pouvoir faire donc déjà soit des olives de table, soit de l'huile d'olive. Et ensuite ces olives de table, on va pouvoir aussi les broyer et en faire de la tapenade. Des tapenades qu'on peut faire nature, donc tapenade verte nature, tapenade noire nature, voire pâte d'olive, parce que la tapenade elle contient forcément des capres et des anchois, mais certains font de la pâte d'olive, donc uniquement vraiment les olives broyées. Et puis après on va pouvoir mettre quelques aromatisations, donc on va faire de la tapenade avec des tomates séchées, de la tapenade avec du basilic.
Ok.
C'est à l'infini. Après, au niveau de ce qu'on appelle les tartinables pour l'apéritif.
Ah oui, celles-là, on les aime bien. Et vous, précisément, qu'est-ce que vous en faites ?
Donc, nous, à la Lieutenante, en fait, on va avoir notre huile d'olive, donc à la fois un fruité vert et un fruité noir. On va avoir nos olives de table, donc on a une gamme où on a 5 variétés d'olives. Donc on va avoir l'olive cassée de la vallée des Baux de Provence, la picholine, la verdale, la caïtier et en olive noire, et la grossane qui est donc l'olive noire de la vallée des Baux de Provence en olive noire. Mm-hmm. Et puis derrière on va aussi faire des tapenades, donc tapenade noire, tapenade verte au basilic, à la tomate, et une anchoyade aux olives vertes aussi. Donc l'idée, c'est tous nos produits, ils sont issus de nos olives.
D'accord.
Et uniquement.
Ah oui, on peut quand même en faire différents produits. Alors on sait qu'il peut y avoir vraiment d'énormes variants d'une année à l'autre, hein, ce qui est du rendement. Alors est-ce qu'il y a des dégâts qui sont causés par la canicule ? Est-ce que cette année justement la récolte est meilleure ? Et comment faire pour protéger au mieux ces oliviers ?
Alors c'est vrai que dans cette région, donc on est au cœur de la vallée des Baux-de-Provence. Donc les Baux-de-Provence, bon, c'est connu, c'est ce fameux rocher avec ce château au sommet. Mm-hmm. On a toute la chaîne des Alpilles, donc qui sont formées à la même époque que les Alpes. Donc c'est pour ça qu'elles s'appellent les Alpilles. Et puis on est dans une région où on va avoir beaucoup de vent. On a le Mistral, on est vraiment dans le couloir du Mistral. Donc qui va à la fois, c'est pas forcément tous les jours agréable, mais par contre, ça fait en sorte que on a un nombre de jours de soleil qui est impressionnant, puisque ça chasse à chaque fois les nuages. On le voit aujourd'hui, on a vraiment, je pense qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et donc, on a ce Mistral qui est aussi important pour les arbres, parce que l'olivier il perd jamais ses feuilles, hein, c'est un arbre qui perd jamais ses feuilles, et donc ça va aussi assainir le feuillage, permettre la pollinisation au moment des fleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un arbre qui se pollinise avec les abeilles, donc c'est le vent qui va polliniser les arbres entre eux, en fait. Il y a différentes variétés de pollen et qui vont faire en sorte qu'on a les olives. Et puis c'est vrai qu'après on est dans une région où il fait très chaud l'été, mais l'olivier résiste bien et il est fait pour résister. Il y a certains endroits, donc comme ici, où on va irriguer les arbres, mais plus pour l'aider à produire. l'olivier, il mourra pas de chaleur. Par contre, il produira moins parce qu'il se mettra toujours, il fera toujours en sorte de se sauver lui-même plutôt que de sauver ses fruits.
Ok.
Donc voilà. Donc l'avantage d'irriguer, c'est de faire en sorte d'avoir une production plus régulière. Mais on est sur voilà, pareil, une irrigation qui est hyper raisonnée. Ici, on a des goutteurs, des lignes de goutteurs qui sont enterrées pour éviter justement la transpiration et économiser l'eau parce que c'est quand même une denrée qui va devenir de plus en plus rare.
Et à l'inverse, s'il y a du gel, comment vous faites pour le gérer ?
Alors, on n'est pas dans la région, on n'est pas trop confronté de manière générale, mais c'est vrai qu'on a des épisodes. Là, l'année dernière, il y a eu un gel, et en plus un gel très tardif, hein, le 8 avril, entre 8 et 10, et 10 avril, donc qui a fait énormément de dégâts sur toutes les cultures. Sur l'olivier, donc on n'avait pas encore fleuri, mais par contre, c'est venu dans certaines zones où il a vraiment fait froid, ça a séché toutes les inflorescences. Donc les inflorescences, c'est l'endroit où c'est les fines, c'est les bouts des branches qui vont porter les fleurs, et donc qui ont été atteintes et qui ont séché.
D'accord.
Donc voilà, et donc on le voit sur d'autres cultures cette année aussi. Donc voilà, l'amandier qui a gelé parce qu'on était vraiment sur des petits fruits au mois d'avril. Pareil sur l'abricot, sur la pêche, le raisin qui a aussi pris. Donc bon, on est normalement pas une région qui très gélive. En tout cas là où on se trouve aujourd'hui, après il y a d'autres situations dans la région, mais c'est vrai que ça, c'était un épisode qui a été vraiment très particulier. Ici en fait, on l'a pas connu depuis les années 70.
Ah bah ça va, vous êtes plutôt épargné et nous souhaitons que ça dure. Alors, si nous avions besoin des conseils d'un pro pour vraiment bien entretenir nos olives et bien les cultiver, lesquels ce seraient ?
Alors, les conseils d'un pro, c'était prenez bien soin des arbres parce que c'est ça qui vous donnera la qualité des produits et des olives et qui fera que vous aurez une bonne production tous les ans.
D'accord, bon bah très bien. Merci énormément Laurent d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci Energy5 et bonne journée à vous tous et bonne culture de l'olivier.
Eh bien, quant à nous, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode de Cultiver les bons moments. C'était Marlon. Ciao tout le monde.
Farming Simulator 22. Semer aujourd'hui, récolter demain.